Donc, bonjour tout le monde, merci pour votre invitation. J'avoue que je me sens un petit peu chez moi ici, puisque je faisais partie encore il y a peu d'une équipe mixte CNRS Muséum d'Histoire Naturelle, mais ça, c'était avant, dans la troisième vie. Dans la quatrième, j'ai donc été députée, non pas Europe Écologie Les Verts jusqu'au bout, puisque j'ai démissionné et je n'avais plus aucun parti politique, donc députée citoyenne et écologiste, jusqu'à juin 2017. Et effectivement impliqué par rapport à l'état d'urgence, puisqu'ayant refusé de voter la première prolongation le 19 novembre 2016, 2015. Je suis toujours en train d'avoir un problème dans les dates, mais ça va venir. C'est pas un contexte qui vient comme ça par hasard. Je suis là pour vous parler plus avec des tripes qu'avec des chiffres. Puisque je me suis souvent, et quasiment tout le temps, sentie plus comme une citoyenne infiltrée à l'Assemblée par erreur que comme une politicienne que je ne serai jamais. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est plutôt de vous expliquer, je ne sais même pas combien de temps j'ai. J'arrive, j'ai vu de la lumière, je m'assois et...
Une grosse vingtaine de minutes si on veut laisser un peu de temps de la discussion.
D'accord, d'accord, tout va bien. Donc vous expliquer, à part quelques dates, finalement, à partir du 13 novembre, ce qui a pu, les discussions qui ont pu y avoir, qui a pu y avoir à l'Assemblée, à l'extérieur, dans les préfectures, dans les salons très feutrés, où les élus locaux, les préfets, les responsables de gendarmerie et de police discutent de l'état d'urgence, de l'application de l'état d'urgence que nous venions de voter, nous et les sénateurs. Donc c'est un petit peu cet état d'esprit-là que je voulais partager avec vous, ces réflexions que je voulais partager avec vous. Mais quand je dis que ça ne venait pas comme ça, hop, le 13 novembre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même toutes les lois sur le terrorisme et le renseignement qui se sont succédées finalement depuis décembre 2012, puisque je ne vais pas vous parler de ce que je n'ai pas voté ou de ce que je n'ai pas étudié avant le dernier mandat. Mais c'est vrai que le climat de tension et de débats très intenses autour des libertés, la protection des libertés fondamentales, individuelles, ne date pas du 13 novembre ou du 14 novembre 2015. C'est-à-dire que déjà, face à Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls, j'avais déjà eu quelques moments houleux à l'Assemblée, et pas qu'un. Le premier d'ailleurs avait lieu non pas dans un hémicycle, mais dans un ascenseur, où Bernard Cazeneuve me dit, juste avant qu'on démarre l'étude d'un des projets de loi renseignement, parce qu'on s'y perd tellement il y en a eu, entre la loi de programmation militaire et les autres, donc Bernard Cazeneuve me dit, mais qu'est-ce que, il paraît que tu veux foutre le bordel sur mon projet de loi, peut-être dit dans un autre mot, mais ça ressemblait beaucoup, et je lui dis non, je veux juste remettre le juge judiciaire là où toi tu l'as enlevé. Donc, comment c'était clair, il n'y a pas besoin non plus de grands débats. Et je veux dire que la politique, c'est parfois très simple, mais on a tendance à faire en sorte que ça soit compliqué pour éviter que le citoyen lambda puisse s'intéresser à ces questions-là. Donc on complique les choses, mais en fait, c'est toujours beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Donc, si on reprend par rapport aux premières réflexions sur l'état d'urgence, je veux dire que, en ce qui me concerne, un des moments les plus éprouvants de ce quinquennat a été le 16 novembre, lorsque nous sommes retrouvés au congrès de Versailles, donc avec le président de la République, qui convie, évidemment, puisque nous sommes sous forme de congrès, les députés, les sénateurs, pour l'écouter parler. En gros, dépenser beaucoup d'argent pour un discours de 20 minutes, qui m'a paru durer une heure, et où, finalement, toutes les mesures qui ont été votées après ou discutées après ont été listées par le président de la République au nom de ce congrès. De manière sémantique, c'est pas anodin de préciser que le congrès de Versailles est très vite devenu dans la bouche du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur le serment de Versailles. Et c'est très important pour la suite. Parce que lorsque vous faites un serment, vous devez respecter ce que vous avez dit à l'intérieur. Un discours, c'est moins grave. Un serment, c'est autre chose. Dans le serment de Versailles, il y avait déjà les notions de déchéance de nationalité, bien sûr. L'armement des policiers municipaux, aussi. Et tout un discours, finalement, un discours extrêmement guerrier, et je dirais même uniquement guerrier. à tel point que je commençais à blêmir au milieu des 900 et quelques autres parlementaires réunis dans cette, je mets de gros guillemets, hein, union nationale où il fallait lutter contre le terrorisme par tous les moyens, même ceux qui servaient à rien. Mais faire la communication et ensuite montrer aux Français qu'on allait les protéger. Sans se poser la question, sans prendre le temps de se poser la question, comment on les protège réellement ? Est-ce que les moyens sont efficaces ? Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire exactement ce qui s'est passé avec le Patriot Act aux États-Unis, où on a l'ancien directeur de la NSA qui nous avoue quand même, juste avant, dans le timing c'est important, c'est-à-dire qu'on sait au moment où on vote la première prolongation de l'état d'urgence que le Patriot Act américain n'a servi strictement à rien, à part à accumuler des milliards de dollars pour les services. Mais c'est pas grave. C'est pas un argument qui est retenu, en tout cas par mes collègues parlementaires, et encore moins par le président de la République. Donc un discours guerrier, aucun mot de social, de culture, aucun mot d'union, on va dire, autour de valeurs communes et de fraternité. Ça paraît complètement désuet, finalement, d'utiliser ces mots-là. Je tiens à préciser aussi que droit de l'homme, droit de l'homiste, c'est une insulte à l'Assemblée à partir de ce moment-là. Un climat qui est tellement incroyablement guerrier que je me revois en train de me retourner vers mes collègues pour voir s'il y avait eu au moins une personne dans cet hémicycle reconstitué qui avait la même tête que moi. Bon, heureusement, je dois dire, j'ai vu le regard d'Esther Benbassa, la sénatrice écologiste de Paris, et là je me suis dit, ah, au moins il y en a une, c'est déjà ça, qui est toute blanche en écoutant ce discours. Lorsque je sors du congrès de Versailles, je croise, et c'est important pour un niveau chronologique, je croise un journaliste de Mediapart, Mathieu Manaudet, qui suit les débats, qui suit ces questions-là depuis longtemps, et qui me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai pu ressentir ? Bah, je lui dis, bah, je suis juste affolée. Au moment où 900 parlementaires se lèvent pour chanter la Marseillaise et applaudir un discours guerrier, oui, je suis mal à l'aise. Totalement, parce que c'est pas mon rôle, c'est pas ma place, je ne suis pas députée pour ça. On est là pour réfléchir, normalement, à des mesures efficaces. Pas pour de l'instantané, de l'émotionnel, et finalement aller dans le sens du vent, alors qu'on n'est pas là. On est vraiment là pour regarder quelles sont les mesures qui doivent être prises pour notre pays, pour éviter que de nouveaux attentats aient lieu. Donc lui a du mal à comprendre ce que je ressens. Par contre, il l'a ressenti deux jours plus tard. Le mercredi soir, donc on est lundi, le 16, le 18 au soir, a lieu en commission des lois une discussion, justement, sur ce texte de l'état d'urgence. Hein. Je vous explique brièvement, il y a quand même toujours le passage en commission et après le débat dans l'hémicycle, suivi du vote. Donc en commission des lois, il est présent. Au moment où on s'apprête, comme ça, juste sous le coup de l'émotion, à rétablir la censure de la presse. Par un amendement déposé par une quinzaine de députés socialistes, pour les plus à droite, mais qui, parce qu'il y a eu le problème de BFM TV, parce qu'il y a eu des problèmes liés finalement à de la presse en réactivité avec des lieux de position de la police de divulguer par ces chaînes de télévision, voilà, plan, pépère, on rétablit la censure de la presse et c'est passé à un cheveu. D'ailleurs, j'ai l'article que Mathieu a pu rédiger juste après. Il dit « Il est rare que je rentre chez moi en tremblant. C'est pourtant arrivé mercredi soir et je ne revenais pas d'un terrain de guerre. Je venais juste de passer la soirée à l'Assemblée nationale. » Si ça vous intéresse, cet article, c'est glaçant. C'est effectivement impressionnant de l'intérieur de voir que dans l'émotion, parce qu'il y a les attentats, parce qu'on est tous touchés, moi je l'ai été d'un point de vue familial aussi au Bataclan, eh ben, on n'utilise plus son cerveau et il faut aller dans la surenchère, dans cette surenchère sécuritaire. Et là, il l'a senti avec un amendement. Il a fallu qu'un conseiller spécial de l'Élysée, c'est-à-dire Vincent Feltès, envoie des SMS en pleine commission des lois pour que de justesse, le député ne le vote pas. Tout simplement parce que le rapporteur avait demander sagesse. Quand on dit sagesse, ça veut dire que le gouvernement se désengage d'un texte ne donne pas d'avis favorable ou défavorable, mais laisse les députés faire ce qu'ils veulent. Tout le monde demande sagesse et arrive in extremis un SMS de l'Élysée pour dire peut-être pas là, on va peut-être pas aller jusque là quand même. Parce que là, ça rappelle les moments où l'humanité avait le journal avait des encarts quand même blancs, pour ceux qui s'en rappellent. Je n'étais pas née non plus, hein, mais des parties entièrement blanches censurées par le gouvernement. Donc voilà où on en était. Quelques jours plus tard, 2 jours plus tard pour être précise, réunion organisée par le préfet pour expliquer à tous les élus du département du Calvados où j'habite ce qui vient d'être voté par les députés et par les sénateurs. Et là aussi, je peux vous garantir que vous avez un vrai frisson à entendre les réflexions des élus locaux sur, finalement, l'intérêt de l'état d'urgence. Et moi, monsieur le préfet, j'ai des jeunes qui brûlent des poubelles dans mon quartier. Est-ce qu'on va pouvoir, avec l'état d'urgence, mettre un petit peu d'ordre dans ma ville ? Et ainsi de suite. Des maires locaux, des élus locaux qui disent « Moi, je pense que je peux expliquer ce que c'est que le terrorisme dans les écoles. » Je ne sais pas ce que pensait le responsable d'éducation nationale présent. Moi, j'ai juste eu des frissons aussi, etc., etc. C'est important de voir à quel point cet état d'urgence commence à être utilisé et les réflexions. Je reviens juste un peu en arrière sur le vote. On n'est que 6 contre. Alors que beaucoup partageaient nos points de vue, beaucoup étaient d'accord avec nous sur le fait que cette prolongation après les 12 jours réglementaires, personne n'a contesté les 12 jours au sein de l'hémicycle. Personne. Ni moi ni personne. Je tiens à le rappeler parce que c'est important, on nous a toujours... C'est revenu sur le tapis pendant 2 ans et demi et encore pendant la précédente campagne, Isabelle Attard, la laxiste, qui est pour les terroristes. Donc les 12 premiers jours, personne n'a critiqué cette décision du président de la République. Mais déjà, on pouvait avoir une idée de ce qui allait se passer. On est censé, comme je l'ai dit dans un article assez de colère à Reporter le 21 novembre, j'ai dit quand on est député, on ne laisse pas son cerveau à l'entrée de l'hémicycle dans le vestiaire. On est quand même censé s'en servir. Et donc ne pas réagir dans l'émotion, nous, de faire cet effort-là. Mais l'argument qui m'était opposé de la part de gens comme Cécile Duflot, comme beaucoup d'autres finalement proches de nous politiquement parlant, c'est on ne saura pas l'expliquer. Je suis d'accord avec toi, ça ne sert à rien. Mais on ne pourra pas l'expliquer dans nos circonscriptions à nos électeurs. Donc on votera pour. Et c'est l'argument que m'ont donné beaucoup de collègues députés. Il y a des gens proches, comme Philippe Nogues aussi, qui venait de quitter le Parti Socialiste. Enfin, des personnes qui se rendaient totalement compte de l'inefficacité de ce texte, mais qui, par peur des réactions finalement émotionnelles, épidermiques et logiques, je dis bien logiques, de la part de la population, il fallait voter ce texte. C'était bien compréhensible au moment du congrès de Versailles, quand vous voyez 950 parlementaires qui se lèvent et qui entonnent la Marseillaise et que vous êtes toute seule à pas la chanter ou à ne pas applaudir, vous vous dites, vu le nombre de caméras qu'il y a dans la salle, ça va se repérer que je n'ai pas chanté. Parce que, après le vote, s'en est suivi quand même une longue liste de lettres d'insultes sur les mails et Twitter. Et sur, on va dire, sur... J'en ai reçu évidemment plus d'une centaine ces jours-là. On va dire que les 2/3 étaient positifs et qu'un tiers était d'insultes et de rage sur pourquoi j'avais voté contre ce texte. Donc des violents qui me disaient par exemple que si on était en 44, j'aurais été tondue. Et justement.
On était en 44.
Justement, on n'était absolument pas en 44, on était censé réfléchir et surtout, je savais familialement parlant ce que ça signifiait, donc c'est encore plus glaçant. Mais voilà, il fallait passer par ces étapes. Je me rappelle aussi avoir demandé aux collaborateurs de Noël Mamère, qui a voté contre avec moi, j'étais comme une obstinée, j'étais comme une... comment dire ? J'étais têtue à me dire, il faut que j'arrive à expliquer. Je sais que c'est dur, mais il faut que j'arrive à expliquer à mes compatriotes pourquoi c'est important de voter contre. Et il m'a répondu, ce collaborateur, Farmbiaz, il m'a dit « c'est pas la peine de chercher. Tu n'y arriveras pas. Tu ne seras pas comprise. Aujourd'hui, demain, dans la semaine qui vient, tu ne seras pas comprise. Peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années. Mais j'ai pris le risque quand même de faire de voter en mon âme et conscience parce que je ne me voyais pas voter pour quelque chose que je considérais dangereux. Tout de suite après, je me suis rendue en Dordogne, chez les maraîchers bio, je ne sais pas si vous vous souvenez tous, Élodie et Julien, maraîchers bio de 34 ans, qui ont été perquisitionnés le 26 novembre. Donc le 26 novembre, on est juste après ces 12 jours d'état d'urgence, on est dedans, hein. 14, les 12, ça fait 26. Moi, j'étais le 30, ils m'ont raconté la scène où une dizaine de gendarmes mobiles débarquent chez eux, ne sachant absolument pas ce qu'ils cherchent. Les gendarmes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire qu'on a en fait, avec un exemple, l'exemple typique des dérives qui se seront produites, parce que ce sont les militants écologistes qui ont été visés en premier, les personnes de religion musulmane, les militants anarchistes, ont été bien évidemment les premiers, et on va dire quasiment les seuls en proportion. Bien sûr qu'il y a eu quelques perquisitions importantes. Je pense que quelqu'un le disait récemment parmi vous, infime par rapport aux 1500, ou on va dire sur les 4 premiers jours, il y a eu 500 perquisitions à peu près. Combien ont donné lieu à des poursuites liées au terrorisme? Peut-être 5 ou 6. Et il ne faut pas oublier non plus, quand je dis ce chiffre, qu'avant qu'on décrète l'état d'urgence, il y avait des perquisitions administratives, il y avait des perquisitions dans les milieux terroristes et qu'il y a eu beaucoup plus de judiciarisation des personnes qui ont été trouvées avant l'état d'urgence, en proportion, qu'après. Mais ça, évidemment, il valait mieux ne pas le dire. Même si les députés étaient au courant parce qu'il y a eu la commission parlementaire ensuite qui s'est mise en place, même si tous les membres de cette commission parlementaire en commission des lois disaient en off la même chose, c'est-à-dire « ça ne sert à rien », ils ont tous voté les différentes prolongations. Et à chaque fois pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on ne saurait pas expliquer le fait de voter contre. Et c'est ce qui est terrible, c'est que cet argument revient en boucle. Je sais que ça prend plus qu'une minute trente sur BFM TV d'expliquer pourquoi on vote contre. C'est évident. Parce qu'il faut argumenter, il faut expliquer qu'il vaut mieux supprimer le financement de Daesh directement sur place, éviter d'avoir des liens approfondis avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite de manière outrancière. Enfin, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais il vaut mieux ne pas le dire et il vaut mieux continuer à voter contre de façon à faire croire à la population qu'on les protège. Tout en votant et au fur et à mesure de toutes les reconductions d'état d'urgence, jusqu'à ce que ça rentre dans l'état de droit, ce qui encore est une belle supercherie, c'est-à-dire que maintenant on peut dire qu'il n'y a plus d'état d'urgence, mais tout est dans la loi, donc évidemment qu'on n'a plus besoin. On est dans l'enfumage royal. Tout en continuant de mettre dans les différentes évolutions de ce texte des atteintes graves aux libertés, et en particulier sur Internet. Et à chaque fois, Internet est visé. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour la quadrature du net sont au courant que ce sont les premiers à être perquisitionnés parce qu'ils travaillent sur la cryptographie. Toutes les communications Internet, tous les messages sont écoutés. La surveillance de masse, finalement, a été déployée sans que personne, quasiment, parce que ce n'est pas avec quelques voix qu'on fait quelque chose, sans que personne ne s'y oppose au sein de l'hémicycle. Et en France, au niveau de nos concitoyens, je dois préciser que je suis dans une circonscription extrêmement rurale, où la plus grande ville, c'est Bayeux avec 15 000 habitants. Il y a 161 communes, donc vous pouvez imaginer comment c'est compliqué de faire passer des messages lorsque tout le monde est éparpillé. Je crois que les personnes de couleur dans Bayeux, il y en a avoir 10. Donc les contrôles aux faciès et les problèmes de perquisition parce qu'on est de culture musulmane, ça ne concerne personne. donc personne ne se sent concerné. Le fameux « j'ai rien à cacher », etc., c'est facile. Tout le monde accepte d'avoir les gendarmes qui vous contrôlent les coffres en heure de journée. Il n'y a aucun problème. Faire passer un message différent dans de telles circonstances, c'est difficile. Très difficile. Et je sais que ça m'a certainement en partie coûté maintenant réélection en juin dernier, puisque c'était l'argument qui était utilisé par mes opposants, comme quoi j'étais quelqu'un qui défendait finalement les terroristes. Les attaques en tant que voilà, soutien des terroristes, je l'ai entendu dans l'hémicycle de la part d'Éric Ciotti. Ça, c'est bon, c'est pour voir sur Facebook. Mais quand même, c'est quand même dur à entendre. Voilà. C'est pas partie des moments les plus joyeux. Et je terminerai par une chose importante de ce qui a pu être ajouté. Après, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer notre discussion ensemble, mais tout ce qui a pu être voté au fur et à mesure des textes. Il ne faut jamais s'arrêter au premier, à celui du 19 novembre 2015. Il faut regarder ensuite toutes les prolongations, parce qu'à chaque fois, il y a eu des horreurs d'ajouter dans les textes. Le moment le plus atroce, certainement le 20 juillet 2016. Là, je suis en fauteuil roulant dans l'hémicycle parce que je viens de me casser le pied. Donc, en plus, dans une position assez diminuée, recroquevillée sur un fauteuil. Et là, c'est la première fois de ma vie où je suis arrivée dans l'hémicycle à reculons. Dans un fauteuil, on dirait, c'est drôle, mais... avec la peur au ventre. Vraiment. Parce que je savais que ce jour-là, j'étais toute seule dans l'hémicycle, à défendre, à demander et à proposer par amendement la fin de l'état d'urgence. Et qu'il n'y avait aucun allié. Quand c'est entre minuit et 5 heures du matin, et vous êtes tout seul, vous savez que de toute façon, vous allez être toute seule, vous y allez comme un baroud d'honneur, bien évidemment, c'est pas pour faire voter quoi que ce soit. C'est juste pour se dire qu'au moins, on aura réussi à faire entendre une autre voix dans l'hémicycle. C'est juste pour ça que vous passez la nuit à lutter. Mais c'est un peu comme l'histoire de la chaîne de M. Seguin à la fin de l'histoire, et ça se finit pas bien. Mais les choses qui ont été rajoutées dans ce texte au fur et à mesure, c'est toujours les mêmes. C'est toujours contre les rassemblements, les manifestations, avec le préfet qui peut interdire tout rassemblement aujourd'hui. Un rassemblement, excusez-moi de vous dire, c'est deux personnes. Puisque c'est plus d'un, donc c'est deux. Sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Les préfets ont tout pouvoir et ils l'ont montré sur différents territoires. Quand vous êtes militant écologiste et que vous parlez du numérique, vous êtes doublement visé. Et moi, j'ai le responsable de la police départementale du Calvados qui a voulu me faire une leçon de morale un jour, alors que je défendais un militant qui était en garde à vue. Et qui m'a ensuite fait passer pour la minorité agissante. Alors, ça peut être plutôt positif d'être la minorité agissante d'un département, mais... c'est pour vous dire à quel point les tensions avec les forces de l'ordre peuvent être vives quand vous essayez de défendre vos positions et que vous n'avez pas évidemment la majorité avec vous. Mais les réflexions, je finirai vraiment par ça. C'est toujours les discussions en off qui sont les plus intéressantes. Ça vous le savez. Le 26 février 2016, nouvelle réunion à la préfecture avec les élus, le maire de Caen, le maire d'Hérouville, etc., le sénateur. Et quand on quitte la réunion, je discute avec le directeur de cabinet du préfet qui me dit « Mais c'est génial, l'état d'urgence. Pour la première fois, on a réussi à faire travailler ensemble les forces de gendarmerie et de police. » Je le regarde donc atterré en me disant, en lui disant « Et c'est quand même très grave ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire que s'il faut attendre l'état d'urgence pour réussir à faire travailler ensemble police et gendarmerie, c'est quand même qu'il y a un problème. » autre que l'état d'urgence. Et il continue sur sa lancée en me disant et puis pour le match de foot avec le club Malherbe, le stade Malherbe, hein, c'est le club de Caen, pour ceux qui suivent, on a pu empêcher comme ça que les supporters de Rennes débarquent. Et j'ai dit, là j'étais encore plus bas que terre. Et là je lui dis, mais c'est pire que tout en fait. Texto, et je lui dis, mais là je suis encore plus atterrée. Donc vous me dites que l'état d'urgence c'est bien parce que vous avez pu empêcher les supporters de Rennes de venir au stade Malherbe. Oui, et il continue de m'expliquer. Vous comprenez, c'est important parce que comme on n'arrive pas à libérer les CRS, il faut leur donner des jours de repos, bah là, on a plus les... ils ont pu se reposer. Alors, fouteuse de merde pour fouteuse de merde, autant en rajouter. Donc je lui demande, mais si vous n'arrivez pas à faire reposer vos CRS, c'est qu'il y a aussi un problème de nombre de fonctionnaires ou d'effectifs de la police, mais je ne vois pas en quoi l'état d'urgence peut résoudre vos problèmes. Et ainsi de suite. Vous comprenez qu'on n'est pas du tout sur la même... on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes problématiques, on ne défend pas la même chose. Vous avez un directeur de cabinet qui est finalement quasiment tout puissant avec le préfet pour organiser des perquisitions administratives ou des assignations à résidence, et qui se base finalement sur des... qui utilise l'état d'urgence, qui le détourne ouvertement, parce que je ne lui ai pas demandé de se confier, on n'était pas sur un canapé, ouvertement se lâche en m'expliquant les bons côtés finalement de cet état d'urgence, et si ça pouvait durer encore un peu, ce serait pas plus mal. Voilà.